Gloire à Dieu, bonjour, chers bien-aimés, frères et sœurs, pour cette matinée, l'occasion de nous retrouver devant la face de Dieu qui nous a donné la vie aujourd'hui. Nous prions le Seigneur. Père, je te rends grâce pour ce moment que tu nous donnes d'écouter et de méditer ta parole afin qu'elle apporte encore la vie, la transformation et la paix dans nos vies. Merci notre Dieu pour ce matin, que ton nom soit sanctifié, conduis-nous et dirige-nous, notre Dieu, dans ce moment de la méditation de ta parole. Que ton nom seul soit exalté et béni à jamais, au nom de Jésus j'ai prié, amen. Gloire à Dieu. Bonjour tout le monde, nous sommes heureux de nous tenir encore ce matin dans la présence du Seigneur pour pouvoir méditer sa parole et recevoir la vie. Car la méditation de la parole de Dieu nous amène à une transformation totale lorsqu'enfin nous la saisissons et la mettons en pratique. Pour ne pas dire lorsque nous vivons entièrement comme cela est ainsi prescrit. Ce matin, le message que je voudrais vous adresser, c'est par exemple l'identité chrétienne. Nous devons connaître notre identité et un enfant de Dieu, celui qui marche avec le Seigneur, doit en effet connaître très bien son identité. Alors, c'est pourquoi je vais nous amener déjà à lire dans le livre, l'Évangile de Jean, au chapitre 14e, à partir du verset 15 jusqu'au verset 24. J'ai parlé du verset 15 au verset 24 du chapitre 14 de Jean. Voici ce qui est écrit dans ce passage. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître en lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un aime, m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Nous voyons donc, chers bien-aimés, ici, que notre identité chrétienne ne dépend pas de la religion dans laquelle nous allons. Notre identité chrétienne ne dépend pas réellement de la mission à laquelle nous pouvons nous attacher. Mais notre identité chrétienne se manifeste lorsque nous sommes en Christ et qu'il est en nous. Lorsque, chers bien-aimés, nous mettons ses commandements en pratique, nous gardons ses commandements et marchant réellement selon ses commandements. C'est pourquoi il le dit clairement, que celui qu'il aime gardera ses commandements. C'est là notre identité chrétienne. Qu'est-ce qui prouve que je suis avec Jésus, que j'appartiens à Jésus? Ce n'est pas fréquenter une église quelconque. Ce n'est pas fréquenter une religion quelconque. C'est l'obéissance. L'obéissance à ses commandements. Si nous n'obéissons pas aux commandements de Jésus, alors nous ne pouvons pas, chers bien-aimés, avoir une identité chrétienne. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que parce que je vais dans une église dite chrétienne quelque part, ça fait de moi réellement une personne qui est de Christ. Non, vous pouvez très bien être dans une religion chrétienne, mais ne pas mettre en pratique, aimer la parole de Dieu et marcher selon elle. Et dans le texte que nous venons de lire, mes bien-aimés, nous comprenons nous-mêmes là-dessus que ce n'est pas fréquenter dans une dénomination chrétienne qui nous donne l'identité chrétienne. Nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que nous allons dans une église chrétienne quelconque. Non, notre identité chrétienne vient du fait que nous aimons les commandements de Dieu et nous les mettons en pratique. Si réellement je ne mets pas les paroles du Christ, les paroles de l'évangile de Christ en pratique, quel qu'en soit mon titre, quel qu'en soit réellement, combien d'années suis-je réellement dans cette religion, cela ne ferait pas de moi quelqu'un qui appartient à Christ. C'est pourquoi l'homme chrétien, cher bien-aimé, c'est une personne qui est composée du Saint-Esprit. D'abord du Saint-Esprit et ensuite l'esprit humain. Voilà la composition de l'homme spirituel, de l'homme ou la femme, du jeune homme ou de la jeune fille qui appartient réellement à Jésus-Christ. Cette personne est composée réellement, primairement du Saint-Esprit. Comme Jésus dit ici, il parle réellement qu'il prierait le Père et il nous enverrait réellement le Consolateur, l'Esprit de vérité que le monde, parce que si vous avez un esprit du monde et si vous aimez les choses du monde, vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, cher bien-aimé, n'est pas l'esprit du monde. Oui, et c'est pourquoi le monde ne peut recevoir le Saint-Esprit, dit le Seigneur. Tous ceux qui sont dans la vie du monde, tous ceux qui marchent d'après le monde, ils ne peuvent pas avoir l'Esprit Saint en eux. Ils n'en ont pas. Qu'ils soient même prêtres, qu'ils soient pasteurs, peu importe, ils n'ont pas l'Esprit du Seigneur. Ils ne l'ont pas en eux. Ils peuvent dire des choses par l'intelligence humaine et qui ne produira aucune transformation dans votre vie, qui ne vous changera pas parce que, écoutez bien, chers bien-aimés, le péché est spirituel. Le péché n'est pas réellement charnel, il est spirituel. Il faut donc une œuvre spirituelle par le Saint-Esprit dans votre vie pour que vous puissiez être délivré de la servitude du péché. Et c'est pourquoi plusieurs personnes aujourd'hui se contentent réellement de chanter dans une chorale, de pouvoir réellement exercer réellement un rôle particulier pendant les cultes. Ils pensent que réellement ils sont en train de servir Dieu. Non, vous êtes en train de servir un mouvement des humains, mais vous n'êtes pas réellement en train de vivre une communion avec le Fils de Dieu par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, chers bien-aimés, le Saint-Esprit, avec grand S, doit être réellement avec nous. Ça, c'est la composition réellement d'un chrétien. Le chrétien a le Saint-Esprit en lui qui est venu en lui parce que c'est l'Esprit que Jésus, notre Rédempteur, a dit que l'Esprit viendra et demeurera éternellement avec vous. Sur le texte que nous venons de lire, c'est clair. Et l'Esprit de vérité au verset 17, que le monde ne peut recevoir. Ça veut dire que si vous vivez dans l'adultère, vous vivez réellement dans le mensonge, vous vivez réellement dans la rose-croix et la franc-maçonnerie, l'Esprit de Dieu ne peut pas être en vous, car cet Esprit n'est pas l'Esprit de Christ. Hein? Alors, c'est pourquoi nous devons comprendre et recevoir cette parole dans la parole que le Seigneur nous a démontrée en nous montrant très, très, très bien qu'il dit bien, je ne vous laisserai pas orphelin. C'est pourquoi celui qui marche d'après la parole de Dieu, celui qui aime les commandements de Jésus-Christ et marche d'après ses commandements, le Père, par la prière de notre Seigneur Jésus-Christ, va venir, va nous envoyer un consolateur qui viendra demeurer avec nous éternellement. Et Jésus l'appelle l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le Saint-Esprit, même si c'est le prêtre ou le pasteur ou l'évêque qui pose sa main sur vous, même le pape, s'il pose la main sur vous, ça ne changera pas votre vie, car ce sont des êtres humains. Mais Jésus nous dit ici, si vous m'aimez, si nous aimons Jésus, vous garderez ses commandements. C'est-à-dire, vous ne vivrez pas dans l'adultère, vous ne vivrez pas dans le mensonge, dans la sorcellerie. Vous n'allez pas aller visiter toutes sortes de marabouts à gauche, les sectes ésotériques, ici et là. Si vous aimez Jésus, l'Esprit de vérité viendra sur vous. Et cet Esprit de vérité, le monde, ceux qui sont dans le monde, ceux qui aiment les choses du monde, ne peuvent pas le recevoir. C'est pourquoi il est très important de comprendre ici que le Seigneur Jésus-Christ sera avec nous parce qu'il enverra en nous le Consolateur, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Et il dit ici, je ne vous laisserai pas orphelin. Il dit, je viendrai à vous. Donc, le Seigneur Jésus-Christ viendra à toi si et si seulement, cher bien-aimé, tu l'aimes et tu gardes ses commandements. C'est ça déjà le départ. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu gardes ses commandements? Si tu ne gardes pas ses commandements, écoute-moi bien, alors tout le reste ne peut même pas se passer, ne peut même pas arriver dans votre vie. C'est pourquoi il est important pour vous ce matin, en écoutant la parole de Dieu, de comprendre très bien, chers bien-aimés, que celui qui a mes commandements, au verset 21, Jésus reprend, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Gloire à Dieu. Je me ferai connaître à lui. C'est pourquoi on peut aller à l'église, on peut aller quelque part pour dire que je m'en vais à la messe ou au culte. On peut y aller, mais sans avoir, cher bien-aimé, l'amour pour Jésus. Sans avoir à connaître Jésus. Jésus dit, je l'aimerai et je me ferai connaître. Si Jésus ne se fait pas connaître à toi, tu ne le connaîtras jamais. Et pour qu'il se fasse connaître à toi, tu as besoin, mon ami, de pouvoir garder ses commandements. C'est en gardant donc ses commandements qui nous amèneront, chers bien-aimés, à garder donc cette relation avec le Seigneur. Et Jude, donc, dans le verset 22, lui dit, Jude, non, pas l'Iscariote, dit au Seigneur, au verset 22, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non pas au monde. Jésus lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Alors nous voyons donc là, chers bien-aimés, l'identité d'un véritable chrétien. Un véritable chrétien, donc, pour passer ce point, est composé du Saint-Esprit d'abord. Saint-Esprit d'abord, de son esprit humain, son âme et maintenant son corps. Et c'est pourquoi, en effet, une telle personne, on parle réellement qu'il a quatre dimensions. Il n'en a pas trois, mais quatre dimensions. Et c'est pourquoi, lorsqu'il suit fidèlement son Seigneur, il agit dans la quatrième dimension par la puissance du Saint-Esprit qui est venu habiter en lui. Il y a donc à comprendre et à saisir, mesdames et messieurs, qu'il y a différence entre l'âme et l'esprit. Il y a une très grande différence, chers bien-aimés, entre l'âme et l'esprit. Et c'est pourquoi, quand nous lisons dans Hébreux chapitre 4, et au verset 4, 12, s'il vous plaît, nous voyons ce qui est entièrement exprimé dans ce texte. Et ça nous démontre très, très, très bien, chers bien-aimés, lorsque nous lisons le texte en ce moment, vous verrez vous-même, chers bien-aimés, qu'il y a une différence entre l'âme et l'esprit. Dans Hébreux, donc 4, verset 12, et il est dit ceci dans ce verset, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrantes jusqu'à partager, voilà, partager âme et esprit, jointures et moelles, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Alors nous voyons que réellement, il y a une séparation. Lorsque, chers bien-aimés, vous êtes un véritable chrétien, vous avez réellement, vous allez jusqu'à la quatrième dimension. Voyez-vous, jusqu'à la quatrième dimension, parce que l'Esprit de Dieu vient diviser entièrement votre corps de votre âme de votre esprit, et de votre esprit avec le Saint-Esprit. Voilà la quatrième dimension. Ça nous montre ici, chers bien-aimés, que nous devons saisir la pensée de Dieu et, en étudiant profondément la parole de Dieu, comprendre comment est composé un véritable chrétien. Alors, le salut est-il basé sur la grâce ou les deux, c'est-à-dire la grâce et la vérité, la grâce et la sainteté? Permettez-moi de vous dire, chers bien-aimés, que le salut est basé sur la grâce et la sainteté. Vous ne pouvez pas être sauvé si vous ne marchez pas dans la sainteté. Les deux sont utiles. La grâce de Dieu et la sainteté de Dieu. Et la sainteté de Dieu. C'est pourquoi il est lieu de comprendre que dans Hébreux 4, 12, l'Esprit lui-même vient mettre la division. C'est-à-dire que votre corps charnel, avec ses désirs, ne puisse pas impacter, bien-aimé réellement, votre vie sainte, hein, qui est basée réellement sur la grâce de Dieu. Le salut est-il basé sur la grâce, la sainteté, les deux? Le salut est basé sur les deux. La grâce, sans la grâce, vous ne pouvez rien faire. La grâce de Dieu doit venir sur vous. Deuxièmement, la sainteté de Dieu, vous deviez l'expérimenter. Quand vous expérimentez cette sainteté, vous haïrez jusqu'à la tunique souillée par la chair le péché. Vous n'aimerez jamais le péché, vous ne suivrez jamais le péché. C'est pourquoi il est important, chers bien-aimés, de le comprendre. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 2, voici ce qui est écrit dans ce passage. Chapitre 2, verset 8 à 10. Voici ce qui est écrit dans ce cas. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car, verset 10, nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, Dieu a préparé des bonnes œuvres que nous devons réellement pratiquer. Il est donc lieu de que si on ne les pratique pas en marchant dans la vérité, dans la lumière, en marchant réellement dans l'intégrité, en marchant dans l'amour et en ayant la miséricorde, en marchant dans toute cette vie dont le Seigneur Jésus-Christ nous a réellement révélé, il est lieu de comprendre, chers bien-aimés, que nous ne pouvons pas être sauvés et nous n'avons aucune identité chrétienne. Nous sommes des personnes qui vivent leur vie comme ça, mais aucune identité chrétienne en nous ne peut être vue. Pourquoi? Malgré que nous allons à l'église, malgré que nous allons ici, mais nous ne sommes pas encore libérés de la puissance des ténèbres qui habitent réellement dans notre vie. Mais Dieu peut le faire, comme réellement il est écrit dans Romains, dans le livre de Romains, chers bien-aimés. Voici ce que réellement l'apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, il est clairement parlé, le Seigneur Jésus-Christ par son serviteur Paul nous dit ceci dans Romains 6, 23. Voici ce qui est écrit dans ce passage. Et ce passage est très clair par rapport réellement à la pensée, à la volonté de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça veut dire donc que si vous vivez encore dans le péché, vous aurez le salaire du péché. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Dieu nous donne sa vie au travers de son Fils. Et c'est pourquoi il est important pour toi de comprendre et de mesurer très bien, mon ami, que aller simplement à l'église ne suffit pas pour entrer au ciel. Aller à l'église ne te rend pas automatiquement un enfant de Dieu, un chrétien, comme nous le voyons réellement dans la Bible, qui vivait dans la sainteté, qui vivait dans l'amour. Et c'est pourquoi ce matin, puisse le Seigneur ouvrir suffisamment tes yeux pour comprendre ces choses. C'est pourquoi nous allons lire, chers bien-aimés, dans Matthieu chapitre 16, et à partir de verset 24. Matthieu chapitre 16, verset 24. Oui, chers bien-aimés, nous allons vraiment en parler là-dessus. Et il est lieu de saisir la volonté de Dieu dans ce passage, afin que nous puissions mesurer grandement la grâce de Dieu et la puissance de Dieu. Alors nous lisons dans Matthieu 16, à partir du verset 24e. Voici ce qui est dit à partir de cette. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Alors, nous voyons là, chers bien-aimés, que nous devons entièrement abandonner la vie du péché. Nous devons suivre le Seigneur Jésus-Christ de tout notre cœur et il nous donnera les capacités que nous n'aurions pas ailleurs, car aucune église ne peut nous donner ces capacités. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut nous donner ces capacités. Nous avons donc besoin de venir à lui et de le laisser nous transformer en acceptant sa parole. Nous devons accepter sa parole. Nous devons accepter sa parole dans notre cœur, dans notre esprit bien-aimé. C'est pourquoi, par exemple, dans le livre de Jacques, dans le livre de Jacques au chapitre 1 et le verset 21, il est dit ceci, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, et recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver, et qui peut vous sauver. Alors il est dit très bien, c'est pourquoi, rejetant toute malice et tout excès de péché et de souillure, quand vous êtes réellement tout le temps dans le péché, et le dimanche vous allez réellement à l'église, vous n'êtes en train de rien faire, vous n'êtes que la nature de ce que vous êtes vous-même. Et il est lieu donc de comprendre et de saisir la puissance et la grâce de Dieu qui devrait agir en vous. C'est pourquoi, bien-aimés, la parole de Dieu est claire là-dessus. Il est donc important pour nous de vivre entièrement ce que le Seigneur nous demande de vivre, de suivre le Seigneur comme il nous demande de le suivre et d'obéir entièrement à sa parole, pour que le Saint-Esprit de Dieu descende en nous et nous donne la force et la capacité de pouvoir, chers bien-aimés, être délivrés de ces influences. C'est pourquoi, chers bien-aimés, en ce moment, que le Seigneur réellement vous visite d'après ce que vous avez entendu, vous pouvez être saint, vous pouvez être transformé et devenir un enfant de Dieu. Vous avez donc intérêt de pouvoir réellement vous donner au Seigneur. Et le Seigneur vous transformera. Et le Seigneur vous donnera une vie nouvelle. Car il a donné sa vie, non pas que vous continuiez à vivre dans le péché, en dehors des commandements de Dieu que vous devriez obéir. Vous ne les obéissez pas. Dieu a envoyé son Fils pour vous sauver du péché et que vous soyez capable de marcher dans ses commandements. C'est pourquoi en cette matinée, recevez la parole de Dieu dans votre cœur et ça va vous amener à pouvoir, chers bien-aimés, vivre l'identité chrétienne. Au lieu d'être simplement un religieux, comme on dit en anglais, un churchgoer, vous allez à l'église, mais vous n'êtes pas changé. Vous n'êtes pas transformé. Et tant que vous n'êtes pas transformé, vous ne pouvez pas entrer au ciel. Même si vraiment les pasteurs, les prêtres et tout le monde vient à ton deuil, tu n'iras pas au ciel. Tu iras en enfer. Et il est lieu de comprendre que Jésus a parlé de l'enfer. Et c'est pourquoi, ne l'oubliez pas, ce n'est pas un homme qui a parlé là, c'est Jésus qui nous a parlé de la géhenne. Aller à la géhenne, lorsque nous ne mettons pas en pratique les commandements de Dieu. C'est pourquoi la parole de ce matin vient pour vous réveiller l'esprit. Et j'espère que, par la grâce de Dieu, demain, nous continuerons également dans ce sens, afin que le Seigneur vous bénisse et vous transforme. Car Dieu n'envoie pas sa parole pour vous condamner, mais il envoie sa parole pour vous éclairer, afin que vous sortiez des ténèbres. Nous prions. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ce matin où tu as permis que je m'adresse, notre Dieu, à mes frères, selon que tu me l'as commandé. Je demande, notre Dieu, ta bénédiction et ta grâce dans tout ce dont nous venons d'entendre, afin que plusieurs de ceux-là qui ont écouté ta parole se repentent et reviennent à toi, qu'ils puissent chercher la délivrance de péché dans leur vie. Car notre Dieu, étant lié dans le péché, étant réellement dans le mal, quel qu'en soit ce que nous pouvons faire pour toi ou en ton nom, est souillé. Je te demande, Seigneur, de même que tu as délivré dans le temps passé, que tu continues à délivrer jusqu'à présent ceux qui viennent à toi. Oui, Seigneur notre Dieu, je te supplie de pouvoir ainsi nous aider et nous amener à réaliser, Seigneur notre Père, ta volonté. Que ton nom seul soit exalté et glorifié à ce moment par rapport, notre Dieu, à ta parole dans la vie de mes frères et sœurs. À toi la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu, le Seigneur, vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Derrière ce micro, c'est le pasteur Dieudonné Abogo. Et vous pouvez avoir les contacts pour tout besoin d'aide quelconque. Nous avons MTN 670 12 65 22. Et nous avons dans Orange 699 99 55 21. Je reprends les contacts 670 12 65 22 et Orange 699 99 encore 55 21. Que le Seigneur Tout-Puissant vous visite en cette journée et que sa grâce soit avec vous, surtout que sa parole soit dans votre cœur. Au nom de Jésus-Christ, Amen.